Et nous retrouvons tout de suite Agora, le magazine de la rédaction, en partenariat avec Maxentre et présenté aujourd'hui par Sophie Deschamps et Frédéric Sabourin. Bonjour à tous.
Bonjour Stéphane, bonjour Frédéric.
Bonjour.
Nous parlons aujourd'hui des finances du Loiret avec celle qui tient les cordons de la bourse, Pauline Martin, vice-présidente du département, chargée donc des finances, mais aussi des relations humaines auprès des 2400 salariés du département. Pauline Martin, bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue.
Merci.
Alors avec vous, nous allons revenir sur le budget 2018 voté seulement jeudi dernier, nous verrons pourquoi. Sur les transports avec un budget qui double, sur les investissements avec là aussi un budget conséquent de 152 millions d'euros. Nous évoquerons également le projet de contractualisation avec l'État, celui-là il vous chiffonne. Et enfin nous terminerons avec un rapport sur l'égalité femmes-hommes au sein du département du Loiret. Frédéric Sabourin, je vous laisse poser la première question.
Et oui, une déviation entre deux rives. On va parler de la déviation de Jargeau et des compensations environnementales qui ont été décidées par le conseil départemental du Loiret. Pour compenser les coupes de bois à 14 hectares, il va y avoir des replantations à d'autres endroits, toujours dans le même secteur. Des banquettes à pied sec pour la petite faune afin qu'elle traverse les franchissements hydrauliques, la protection des chauves-souris, le balbuzard, des crapauducs. 9 crapauducs vont être construits de 15 mètres. Alors les crapauducs, pour les auditeurs, c'est des passages sous la route pour que les crapauds puissent passer sans se faire ratatiner par les voitures. Bref, derrière ces choses qui ont l'air de la plaisanterie, il n'y en a pas. Et des commentaires sur un article récent de Maxentre.fr étaient un peu sceptiques sur ces compensations écologiques, on va dire, contre cette déviation de Jargeau. On sait qu'elle fait débat. L'objectif ici, c'est pas de louer les uns et de pas louer les autres. C'est juste de dire, bon, finalement, il va y avoir une déviation parce qu'on a compris que c'était à peu près utile. En tout cas, les gens de Jargeau vont s'en trouver certainement satisfaits. En même temps, il faut qu'elle passe quelque part. On coupe du bois, on va en replanter. Il y a de l'argent qui est mis sur la table pour ces compensations écologiques. Est-ce qu'on peut faire le point pour tordre le cou un peu aussi aux rumeurs?
Alors effectivement, cette déviation de Jargeau fait beaucoup parler. C'est quand même 8 millions d'euros en termes de mesures environnementales qui vont être allouées, qui ont déjà été, enfin commencé à être allouées et qui le seront dans les mois et les années à venir. Alors vous avez évoqué un certain nombre de mesures environnementales qui vont être mises autour, qui sont, non, c'est pas du folklore, c'est aujourd'hui une nécessité en termes effectivement de replantation de surface, mais aussi de mission écologue, si je puis dire, autour de ce projet, de façon à préserver à la fois la biodiversité et l'environnement derrière. Donc c'est quand même, ce sont quand même 5 millions d'euros qui vont être alloués à tout ce qui concerne la protection des eaux, donc l'écoulement naturel, les programmes de renaturation, enfin tout ce qui est là directement lié au pont, mais ce sont aussi plus de 200 000 euros sur la protection des milieux naturels. Alors effectivement, vous parliez des crapauds, moi il y a aussi, n'oubliez pas, les tremplins chauves-souris quand même.
Des tremplins chauves-souris,
voilà,
il y a des sujets.
Il y a quand même des sujets qui nous mobilisent. Quasiment 300 000 euros sur l'aspect environnemental des chantiers, c'est important aussi. Quand on crée un chantier, effectivement, on crée des nuisances environnementales, je m'entends, hein, y a d'autres nuisances, mais oui. Celle-là, là, on est dans l'environnement. Donc, sur l'antidestruction des habitats, les problèmes de nidification, etc. etc. Donc là, c'est quasiment 300 000 euros qui vont être consacrés à ce domaine-là. Et puis, vous l'avez dit, les mesures compensatoires, à la fois en termes de plantation et autres mesures, sur lesquelles il y a plus de 500 000 euros.
Mais voilà. Vous pensez que 8 millions, c'est beaucoup, c'est 10% du projet, ça c'est un peu ce que demande la loi. Est-ce que vous trouvez que c'est de l'argent qui est mal utilisé ou que la préservation de la biodiversité, il faut y venir?
Je pense qu'on a aujourd'hui pas vraiment le choix, c'est-à-dire que nous faisons partie des pays qui prêtent une attention particulière à l'environnement, probablement pour rattraper le retard d'autres pays sur lesquels on devrait aussi à certains moments se focaliser. Quand on voyage un peu, on se rend compte qu'on est quand même très très en avance sur ces problématiques-là.
C'est pas pas sûr qu'on s'occupe autant du balbuzard en Chine quand on fait une déviation.
C'est ce que j'allais vous dire, très clairement, quand on voyage, on voit des choses qui très clairement nous horrifie parce que nous avons passé depuis des années ce cap-là ici en France. Donc non, moi j'ai pas de jugement de valeur sur la somme consacrée, je pense qu'elle est effectivement nécessaire. Maintenant à nous de calibrer avec l'écologue, et c'est pour ça que nous avons missionné clairement un écologue sur cette problématique du pont de Jargeau de façon à viser juste. Voilà.
Alors, on revient sur le budget, Pauline Martin, un budget de 690 millions d'euros contre 667 en 2017. On va réexpliquer en deux mots pourquoi il est voté si tardivement par le département, et ce depuis plusieurs années maintenant.
Oui, alors il y a une époque, c'était une façon pour le département d'afficher son mécontentement par rapport à certaines mesures gouvernementales. C'est pas du tout le cas aujourd'hui, tout simplement parce que le gouvernement a quand même été élu au mois de juin, que la loi de finances n'a été validée qu'au mois de décembre. Du coup, la notification des dotations et autres informations, ne serait-ce que les cahiers des charges, sont arrivés extrêmement tard. Personnellement, alors même si ça nous fait prendre un petit peu de retard sur les travaux de l'année, je trouve plus sain de voter un budget au premier trimestre.
Hein. C'est ce que vous ferez encore l'an prochain ?
Oui, alors on le votera peut-être un peu moins tard, fin mars. Mars, ça fait vraiment tard dans le premier trimestre, mais nous resterons sur ce calendrier-là. Le vote d'un budget, c'est quand même 6 mois de préparation largement en amont. Hein.
Alors, ce qu'on remarque sur ce budget, c'est le doublement du budget des transports. On passe de 20 à 40 millions, oui, transports et routes. Pourquoi ? Il y a du retard, là ?
Je vous ai repris sur transport parce qu'effectivement, oui, les transports se sont envolés vers la région, en tout cas les transports scolaires. En revanche, oui, le budget des routes a été doublé. C'est une volonté du président. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il présidait la commission des routes. Donc, il connaît bien le sujet de voirie départementale qui souffre. Alors, quand on regarde les autres départements, on se rassure, c'est sûr. Mais bon, ce n'est pas une raison. Donc, la volonté, c'est de faire un gros travail de fond sur le réseau routier départemental. Voilà, donc c'est 20 millions de plus qui sont ajoutés à ce budget-là.
Le conseiller départemental Christophe Chailloux a pointé du doigt quelque chose qui aurait pu passer inaperçu sur les compensations données par le conseil départemental aux collèges privés par rapport aux collèges publics. Est-ce qu'on peut faire le point là-dessus ? Parce que ça n'a pas tellement été médiatisé. Est-ce que ça mérite de l'être ? On ne sait pas, mais on va le voir. Le département s'occupe à la compétence de la gestion des collèges. Qu'est-ce que c'est que cette affaire de compensation par rapport aux collèges privés et aux collèges publics ? Vous donnez aussi des sous aux collèges privés, pour le dire en un mot ?
Alors, la loi nous impose de donner des sous aux collèges privés. Alors, je précise ceux qui sont sous contrat, bien entendu. Il y a un principe d'équité de traitement public-privé. Alors, équité de traitement sur la dotation que nous allons attribuer. Nous avons fait un gros travail avec le diocèse cette année de façon à rendre plus lisible cette dotation qui était clairsemée, si je puis dire, entre la loi Falloux, l'aide à l'informatique, un certain nombre. Alors ça s'appelle le forfait externa à la base. Nous avons une obligation d'alimenter, si je puis dire, les collèges privés là-dessus. Donc voilà, nous avons travaillé avec les collèges privés de façon à ce que la ligne budgétaire apparaisse en tant que telle et ne soit pas noyée dans plusieurs lignes budgétaires. Ce qui donne, oui, le sentiment d'une augmentation vis-à-vis des collèges privés, mais qui, en fait, ne fait que rendre beaucoup plus lisible la subvention qui est allouée aux collèges privés et qui est équivalente à celle des collèges publics.
Vous parlez de l'informatique. Il y a d'autres domaines que vous aidez dans les collèges privés ?
Alors, aujourd'hui, on ne se pose plus la question sur un domaine particulier, on verse une dotation. Voilà. Et après, libre au collège d'en faire ce qu'il veut. RCF.
La joie se partage.
Vous écoutez Agora en partenariat avec Maxentre et nous parlons aujourd'hui des finances du Loiret avec Pauline Martin, sa vice-présidente chargée de cette mission. Frédéric Sabouin.
Il y a eu un débat au début de cette session budgétaire concernant une contractualisation avec l'État. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est une circulaire qui vous a été envoyée, qui a été envoyée à tous les départements le 16 mars dernier pour être précis. C'est ce qu'on a appelé pendant un moment le pacte girondin. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous attendiez de vos voeux, un pacte entre l'État et les collectivités qui ne lèse ni trop les uns ni trop les autres. Et en même temps, hein, on pourrait dire, selon une phrase célèbre, ça vous a mis en colère cette affaire parce que pour vous, le compte n'y est pas et il semblerait qu'on va encore tailler dans les départements. Récemment, les régions ont poussé aussi leur coup de gueule à l'Assemblée des régions de France. On en a parlé sur cette antenne, on en a parlé dans Maxentre. Et puis finalement, pchit, ils sont rentrés dans le rang. Ils sont revenus à la table de négociation de la conférence des territoires. Les 450 millions d'euros, ils se sont assis dessus parce que Édouard Philippe n'a pas voulu les donner. Est-ce que vous, les départements, on sait que l'Association des départements de France est en pointe dans ce futur combat. Hein, il y a la grève des cheminots, mais il y aura aussi la grève des départements, peut-être. Finalement, on a envie de dire, vous allez encore faire des effets de manche, puis finalement, qu'est-ce qui va se passer ?
Alors, je pense que vous l'avez dit dans vos propos, on parle de négociation. Je pense que c'est un point important à souligner aujourd'hui. Honnêtement, moi, je trouve que la contractualisation a du bon. Hein. Elle a le mérite de poser les choses entre deux parties, sauf que la contractualisation doit partir d'un principe que moi j'apprécie, qui est le gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'il faut que chacun y trouve son compte. Aujourd'hui, l'État vous dit il n'y a pas de baisse des dotations des collectivités sur l'année 2018, mais il y a quand même 13 milliards à récupérer quelque part.
Sur 5 ans.
Sur 5 ans. Donc, cette contractualisation en fait partie, puisqu'il s'agit de plafonner les dépenses des départements et des grosses collectivités, puisqu'il y a un peu plus de 300 collectivités concernées, à 1,2% d'augmentation sur l'année 2018. Nous sommes, nous, département du Loiret, en capacité de remplir, je dirais, ce contrat. Sauf qu'en échange, nous n'avons pas de contrepartie de l'État. Alors, là où je mets un bémol, c'est que nous amorçons seulement les négociations aujourd'hui avec le préfet, qui est le représentant de l'État localement, mais dans le cahier des charges, je dirais, de le contrat type que nous avons reçu la semaine dernière, vous voyez, c'est du tout frais. Très honnêtement, j'ai le sentiment que la marge de manœuvre est très, très, très retrécie. Donc voilà, aujourd'hui, moi, le bras de fer ou l'effet de manche, si vous voulez, il est plus sur laissez-nous un tout petit peu de marge de manœuvre. La marge de manœuvre, elle n'est pas forcément financière, mais elle est peut-être sur la négociation, on en a beaucoup parlé, hein, le RSA, je pense que vous en parlerez avec mes collègues du social, les allocations individuelles de solidarité qui pèse lourd sur les finances des départements en général, sur les normes par exemple, hein, à nous aussi, ou à l'État d'alléger un petit peu cette problématique des normes qui pèse fortement sur les collectivités, il en faut, mais là je pense qu'on a dépassé les bornes. Donc à un moment donné, le discours du département du Loiret et de l'ADF, mais plus particulièrement du département du Loiret, c'est de dire bah voilà, laissez-nous une marge de manœuvre pour négocier.
Mais la semaine dernière, vous disiez finalement, on craint presque une mise sous tutelle de l'État. Pourquoi utiliser cette formule ?
Alors là, c'est encore une autre problématique. Elle est liée à la réforme fiscale annoncée, c'est-à-dire que on s'interroge, on entend parler d'une suppression totale de la taxe foncière dédiée au département. Ça veut dire que le département n'aura plus la possibilité de fixer ces taux. Alors, ça peut être une bonne chose pour... Mais je rappelle que nous, on ne les a pas augmentés cette année, hein, pas d'augmentation de la fiscalité.
On les avait augmentés il y a deux ans.
On les avait augmentés il y a deux ans. Si vous voulez, la crainte aujourd'hui, il y a aussi, on parle de la CVAE, qui est ce qu'on appelle une ressource dynamique pour le département, c'est-à-dire que plus les entreprises se développent, plus la ressource augmente. Donc oui, on est clairement aujourd'hui sur une problématique de mort de l'autonomie fiscale, voire financière, des départements. On a beaucoup parlé de décentralisation pendant des années. Est-ce qu'on n'est pas sur une nationalisation des finances locales avec cette réforme ?
On en a déjà parlé de ça. Enfin, quand il y a eu les 5 ans de baisse de dotation globale de fonctionnement dans le Loiret, mais aussi dans d'autres départements de la région centre, on a entendu des expressions très fortes. On est à l'os, il n'y a plus rien à ronger, il n'y a plus de gras. Hein, voilà, on l'a dit partout. C'est l'asphyxie des départements. À la même époque, on disait, est-ce qu'on va supprimer les départements ? Enfin, ça fait 40 ans qu'on le dit. Là, on y arrive presque.
On sent que les taux se resserrent. Voilà.
C'est
donc,
le cas de le dire.
À nous aujourd'hui de faire valoir le rôle que joue le département sur les territoires. Je pense que c'est vraiment un des fondamentaux du département, la relation à l'habitant et la relation surtout avec les collectivités locales. Je pense aux communes et aux intercommunalités. Aujourd'hui, c'est le département qui l'assure.
Est-ce que sur ce sujet, il peut y avoir une convergence des luttes ? Pour reprendre une expression à la mode, avec les régions sur ces sujets-là. On sent qu'il y a quand même une bisbille assez forte. Enfin, une bisbille, je suis gentil de le dire comme ça, hein, mais il y a une tension assez forte entre Macron, entre Emmanuel Macron et les territoires.
Oui, souvenez-vous de la précédente réforme qui parlait d'un conseiller territorial, donc d'un rapprochement,
pchit, hein,
d'un rapprochement
c'était
entre.
C'était une proposition de droite, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. C'était à l'époque de Nicolas Sarkozy. Bon, souvenez-vous, aujourd'hui, peut-être qu'il faut réfléchir à un rapprochement entre la région et le département plutôt qu'une sectorisation des compétences.
Mais est-ce que ça veut dire que ce budget 2018, vous avez eu du mal à le boucler cette année ?
Non, alors clairement non. Nous n'avons pas eu du mal à le boucler parce que nous faisons des efforts de gestion déjà depuis un certain nombre d'années. Hein. Quasiment une bonne dizaine d'années que le département est de plus en plus vigilant. Nous sommes dans des ratios qui sont tout à fait corrects hein, en termes de masse salariale. Nous sommes les septième département de France. Sur la gestion des finances, on est à peu près dans les mêmes ratios. Donc non, mais si vous voulez... aujourd'hui, c'est un budget sur l'année 2018. On est là aussi pour prévoir l'avenir hein, et anticiper sur les difficultés qui peuvent se présenter dans les années à venir.
Y compris sur l'autofinancement, vous êtes obligé de le revoir un peu à la baisse ?
Nous restons vigilants, voilà. Hein. Alors oui, cette année, il va être un petit peu à la baisse, encore une fois, tout à fait dans des ratios raisonnables, mais clairement, nous restons attentifs à ne pas dépasser les ratios.
RCF, la joie se partage.
C'est toujours Agora sur RCF Loiret en partenariat avec Maxentre et nous sommes en compagnie de Pauline Martin, vice-présidente du Loiret, chargée des finances mais aussi chargée des relations humaines auprès des 2400 salariés du département. Et si je rajoute cette précision, Frédéric, c'est parce que vous voulez aborder un rapport justement sur l'égalité femmes-hommes ou hommes-femmes réalisé au sein même du département.
Oui, c'est une obligation de la loi sur l'égalité hommes-femmes d'août 2014, hein, et puis ses déclinaisons dans les collectivités territoriales. Bon, quelques chiffres sans noyer les auditeurs. 2378 agents, 2400 agents au conseil départemental, 1708 femmes, 670 hommes. Première question, Pauline Martin, travailler au département du Loiret, c'est un métier de femme ?
Ce sont les compétences qui aujourd'hui sont plus ou moins dévolues aux femmes. Effectivement, ça fait 71, quasiment 72% de femmes sur le département du Loiret. Mais tout simplement parce que le social, l'action sociale pèse lourd à la fois dans le budget du département et en termes de masse salariale.
Alors, donc les stéréotypes ont la vie dure puisqu'on dit que souvent les femmes vont vers les métiers du social, de l'enseignement, des soins. Là, c'est le cas.
Eh bien, on est en plein dedans, tout à fait. Messieurs, n'hésitez pas une seule seconde à vous engager dans l'action sociale.
Oui, et on peut inciter aussi les femmes à s'engager au niveau des routes parce que tous les agents dédiés aux routes sont très, très majoritairement masculins. On voit qu'il y a 80 femmes responsables de service pour 46 hommes. 16 directeurs et 16 postes de direction dont la moitié pour les femmes, aucun directeur général adjoint. On va parler un peu des rémunérations. Évidemment, il y a des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. 22% d'écart pour les titulaires en cadre A, 18% pour les cadres B et 10% pour les employés, les agents titularisés C. Ces différences viennent du fait que dans cette moyenne-là, on lisse tout, c'est-à-dire on met aussi les temps partiels, et c'est l'occasion d'en parler parce que les temps partiels concernent là aussi majoritairement des femmes. 227 temps partiels au département. Alors vous allez me dire, sur 2400 agents, c'est pas énorme, mais seulement 8 hommes.
Eh bien, envie de vous faire
les
la même réponse.
Pas faire de temps partiel.
Les hommes, le temps partiel est ouvert à tout le monde, hein, parce que le règlement est valable pour aussi bien pour les hommes que pour les femmes. J'ai pour habitude de dire qu'on n'est pas toujours sur un pied d'égalité et qu'effectivement les femmes ont plus tendance à prendre des temps partiels, et c'est ce qui explique. Alors, il n'y a pas que le temps partiel, hein, mais ce qui explique aussi les décalages de salaire, parce que quand vous prenez un temps partiel, votre carrière dans la fonction publique avance aussi moins vite, et du coup vous montez moins rapidement en grade dans la fonction publique. Donc sur la grille des salaires, on est assez coincé, nous, sur la grille des salaires de la fonction publique, donc il n'y a pas de disparité, tout en sachant quand même, je tiens à le préciser, que les filières techniques, et ça c'est la loi, sont mieux rémunérées, entre guillemets, que les autres filières.
Hein. Alors ce rapport, j'imagine que vous l'avez regardé à la loupe, d'ailleurs vous en parler avec précision, mais par exemple sur le fait qu'il n'y ait pas de poste, que plus on monte, moins il y a de femmes, comment on peut faire pour corriger ça? Et j'imagine qu'il y a cette volonté-là.
Alors,
Et puis d'une manière générale, comment est-ce que, après tous les constats qu'on vient de faire, quelles mesures, s'il y a des mesures, mais quel point d'amélioration, incitations on peut faire?
Effectivement.
Parce que les rapports s'enchaînent, c'est toujours les mêmes constats.
Il y a une vigilance à avoir. Vous avez remarqué qu'il y a un point que vous avez souligné qui est important sur les postes de direction. Alors, effectivement, les directions générales sont tenues par des hommes. Alors là, clairement, il y a quelques années, il y avait plus de femmes. C'est vraiment une histoire de recrutement et de feeling. Hein. C'est pas un quota, loin de là. Hein. En revanche, sur les directions, donc le stade en dessous, il y a beaucoup plus de femmes. Hein. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas de blocage à un moment donné. Et puis après, il faut que nous arrivions à travers la mobilité, à travers les parcours professionnels, à inciter finalement les femmes à prendre des postes plutôt dévolu aux hommes et vice-versa. Moi, je trouve que depuis quelques années, on a fait quand même beaucoup de progrès en la matière. Là, on se lance sur une exposition qui inverse un peu les rôles à un moment donné. Hein. J'en sais rien. Moi, le métier de sage-femme, il y en a quand même un certain nombre qui dépendent du département, c'est pas forcément dévolu uniquement aux hommes. Je vous donne cet exemple-là parce que c'est vrai qu'on voit rarement, on en voit, hein, mais rarement des sages-femmes hommes. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on visualise un peu mieux quels sont les métiers qui pourraient être pratiqués par les deux sexes de façon équitable.
Alors, le plus gros progrès, il est politique, puisque maintenant, il y a parité au conseil départemental. Du temps du conseil général, on se rappelle de Jeannine Rosier qui était la seule conseillère départementale. Est-ce que vous estimez que ça change l'ambiance justement d'un département, qu'il y ait autant de femmes que d'hommes?
Alors moi, je n'ai pas vécu l'expérience précédente, donc c'est difficile de juger, mais si j'écoute mes collègues plus anciens au conseil départemental ou au conseil général, clairement ils sont un petit peu bousculés dans leurs petites habitudes, mais finalement assez contents d'avoir un certain nombre de femmes qui, c'est un peu pugnace, nous sommes un peu pugnaces, donc voilà, qui font avancer les choses.
La prochaine étape, ce sera une présidente.
Ah, l'éternelle question.
Ça aurait peut-être pu arriver récemment.
c'est ce que j'ai entendu dire. Maintenant, là aussi, la différence entre les hommes et les femmes, c'est que en termes de carrière politique, les femmes réfléchissent beaucoup au reste, aux conséquences de l'engagement, beaucoup plus, je pense, que les hommes.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Pauline Martin, d'être venue au micro. micro de RCF Loiret, donc en tant que vice-présidente chargée des finances et des relations humaines auprès des 2400 salariés du département. Merci beaucoup Frédéric Sabourin.
Merci à vous.
Cette émission, eh bien, elle est à retrouver en podcast sur rcf.fr ou sur le site de Maxentre en tapant maxentre.fr. Merci à vous d'avoir été à l'écoute et bon appétit.
Merci à vous.